France Inter.
Quand vous aviez une machine à laver, vous ne saviez pas quoi faire, vous disiez aller à Drôme. C'est-à-dire qu'on y mettait les carcasses de voitures, on y mettait des pneus, on y mettait des ferrailles, etc. Et les gamins allaient à la chasse aux rats. Ah, mais les enfants, c'était interdit, mais bon, depuis, je m'y baigne avec mes petits-enfants.
C'est la belle histoire d'une métamorphose, celle d'une vallée où coule une rivière, la Drôme, qui a donné son nom à un département. La Drôme était un cloaque, il y a 50 ans, un cours d'eau si maltraité par l'homme qu'il avait fini par ressembler à une décharge à ciel ouvert. Les enfants n'avaient même plus le droit d'y patauger. Et puis quelques visionnaires se sont révoltés contre un tel gâchis. Cet affluent du Rhône est redevenu limpide, source de bien-être et d'espoir dans une vallée d'exception, la Biovallée.
On aurait pu appeler cette vallée l'éco-vallée, mais on l'a appelée Biovallée parce que cela vient du grec bios, le vivant, la vallée du vivant. Parce qu'on a, je pense, depuis toujours su accueillir les gens.
La Biovallée est un pari, celui d'un modèle écologique et solidaire. Longtemps, on a élevé des chèvres dans la Drôme et surtout fabriqué du picodon. Au siècle dernier, l'exode rural a désertifié ce territoire aride. Dans les années 70, quelques néo-ruraux précurseurs ont débarqué avec des idées plein la tête. Le rêve de façonner un laboratoire d'expérimentation en privilégiant l'agriculture biologique et durable. Ils ont lancé un projet politique, social et humain, ils ont fait des émules parmi les élus et les habitants. Parmi les pionniers de cette biovallée, un philologue venu des Pays-Bas, Sjoerd Wartena, était champion d'aviron. Il a posé ses rames dans la Drôme des 70s. Il a lancé la culture des herbes aromatiques à côté des élevages caprins.
C'était une sorte de caprice. On était touché par le mouvement 68 ans un peu, le retour à la nature. On a dit, écoute, on va essayer.
50 ans après l'arrivée de ce précurseur, les néo-ruraux continuent à affluer dans la Biovallée. Des citadins aisés ont tout plaqué pour tenter une nouvelle vie dans la Drôme. Est-elle un modèle d'avenir ? Biovallée, le vivant avant tout, c'est un reportage de Thibaut Cavaillès qui nous emmène d'abord dans une casse automobile ultra-moderne à Livron-sur-Drôme, tout au bout de la vallée.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Alors là, je suis dans un grand hangar avec des voitures accidentées, des motos accidentées, des gens en gilets jaunes qui travaillent, il y a beaucoup de bruit. Monsieur, je peux vous demander ce que vous faites ?
Je suis là pour tomber le moteur. C'est pour aller enlever le moteur, on va dire.
Et simple. Là, il y a cette grosse pince jaune qui est rentrée à l'intérieur de la voiture.
En fait, cette machine, c'est, on appelle le retourneur. La voiture est en train de se retourner pour pouvoir démonter tous les vis qui se trouvent sous la voiture, on va dire, le support moteur.
Donc, il y a cette grosse pince qui a retourné la voiture de façon automatique. Bien sûr, vous êtes aux commandes d'une machine. Je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, je m'appelle Doumbouya Aboubakar. Et je travaille à GPA depuis 8 mois.
Merci.
Merci, au revoir.
Donc là, je suis donc dans ce grand hangar avec des voitures accidentées partout, des pièces, des odeurs d'huile. C'est un drôle d'endroit pour commencer un sujet sur une vallée qu'on appelle Biovallée. Avec moi, il y a Johan Renaud. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis l'un des dirigeants de la société GPA à Livron, Livron-sur-Drôme, au cœur de la Biovallée.
GPA, géant, pièce automobile.
GPA, c'est une boîte familiale qui existe depuis une soixantaine d'années, dont le nom a changé régulièrement. Et effectivement, initialement, d'abord les établissements Renault et ensuite le géant de la pièce automobile. Et par souci un peu de simplification, GPA, tout simplement. Nous sommes 230 collaborateurs, dont 70 ici dans l'usine, qui démontent environ 80 véhicules par jour.
Là, je l'ai décrit, il y a des voitures accidentées, il y a des odeurs d'essence. En quoi cela peut-il s'inscrire dans le projet Biovallée ?
La Biovallée, c'est un territoire d'expérimentation. Ce n'est pas seulement le bio de l'agriculture, l'alimentation. On expérimente le monde de demain. Et GPA, à sa manière, expérimente le monde de demain en recyclant les véhicules d'une manière vraiment différente de ce qui se pratique ailleurs. Ce que vous ne voyez pas, c'est que lorsqu'on recycle un véhicule, on commence d'abord par le dépolluer. Le gasoil permet d'alimenter nos chariots, ici de manutention, mais aussi de chauffer le bâtiment. On collecte l'eau de pluie pour la réutiliser, on collecte l'eau de pluie en hiver pour la réutiliser en été. Les ceintures sécurité et tout un tas de matières et d'objets qu'on trouve dans les voitures permettent d'alimenter une ressourcerie dans Livron et on soutient un dispositif qui s'appelle le territoire zéro chômeur de longue durée. On questionne notre utilité, en fait, notre utilité au monde quelque part et comment, par exemple, aider à ramener des gens vers l'emploi alors qu'ils en sont éloignés, comment travailler le sujet de l'insertion, le sujet de la formation. Et Aboubakar, c'est un exemple parfait.
Pas compte combien c'est magique pour la radio tous ces bruits là.
Bonjour les garçons.
Bonjour.
Et les filles, pardon. Les espaces extérieurs là, c'est là où on stocke les véhicules sous ces ombrières photovoltaïques. Et là typiquement c'est un symbole de GPA dans la Biovallée. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre au territoire un peu ce qui nous a donné là, le site qui fait 24 hectares. Avec la commune et la communauté de communes, on a créé des ombrières photovoltaïques qui couvrent les véhicules. Donc il y a plus de 5000 voitures qui sont à l'abri. La toiture produit de l'énergie là, pour les deux villes les plus proches, Livron et Lorient, qui font partie de la Biovallée. La puissance totale elle est de 8 MW crête, ça fait 5000 foyers, 5000 maisons en fait, qui sont alimentées par ces ombrières photovoltaïques. Mais surtout, les véhicules ne sont pas sous l'eau de pluie. Donc cette eau de pluie, elle ne va pas se charger en hydrocarbures sur des voitures accidentées et potentiellement sales. Et donc, lorsqu'ensuite je la collecte, je la traite, je la rejette en milieu naturel, c'est beaucoup plus facile pour moi de la rendre parfaitement propre. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que c'est le territoire qui exploite, qui est actionnaire de cette structure. Et puis ce sont aussi les citoyens qui l'ont financé à travers un dispositif de financement participatif.
En remontant la Drôme depuis Livron, au bout de quelques kilomètres, on arrive à Cré, commune de 8000 habitants, connue notamment pour son donjon, sa tour qui surplombe la ville. Je suis au pied de cette tour, devant moi un ancien centre hospitalier qui a été transformé en EHPAD. Et là, j'attends Flore Bazin, fondatrice de l'association Colambol, et son employé Gaël, qui viennent ici collecter les déchets organiques de l'EHPAD pour les transformer en compost et le revendre à des agriculteurs bio de la région. Et là, je les vois qui arrivent donc à vélo.
Là-haut.
Vous allez loin ?
Juste à la porte, là.
Je vous suis. Là, il y a Gaël qui vient de me passer devant avec un vélo à assistance électrique et une remorque sur laquelle se trouvent trois poubelles marron. Et Gaël entre dans une cour intérieure de l'EHPAD. Ça va ?
Ça va, un peu essoufflé.
Pourquoi ?
Bah, ça monte.
Ça monte et il y a du vent aujourd'hui. Hein.
Et c'est lourd.
Et après, qu'est-ce que vous en faites de ces bacs ?
Après, on va les composter. Puis quand le compost est mûr, les revendre à des maraîchers.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes éboueuse ?
Je sais pas. Je connais pas la définition exacte d'éboueuse.
Comment vous vous qualifiez alors ?
Collecteuse de compost. Je sais pas si t'as une autre définition.
Collectrice, compostrice.
Alors là, je suis avec Flore Bazin. Vous me décrivez ce que fait Gaëlle ?
Eh bien, Gaëlle est en train de faire un échange de bacs dans le local poubelle de l'hôpital du centre hospitalier de Cray.
J'arrive pas à trop identifier, c'est
un petit peu de gingembre, des sopalins aussi, on prend les sopalins.
Ça marche dans le compost ?
Oui, ouais, on a des consignes de tri extrêmement larges, vous voyez, là on voit de la sardine. On prend tout ce qui est organique et qui se dégrade.
Vous, Flore Bazin, vous êtes donc la fondatrice de cette association Colambol. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Colambol ?
C'est un petit insecte, détritivore.
Détritivore ?
Oui, c'est un insecte qui dégrade la matière organique. Et c'est un merveilleux indicateur de biodiversité aussi dans les sols très vivants, très riches. Il y en a des milliers d'espèces différentes. Et dans les sols appauvris, on en retrouve quelques-uns, voire pas. Je bossais dans un centre d'enfouissement d'ordures ménagères à 50 km de là, au sud. Et donc tous les jours, je voyais 300 tonnes passer de déchets qui étaient enfouis tous les jours. Et dans ces 300 tonnes de déchets, il y avait à peu près 50% d'ordures ménagères qui étaient composées à 30% de matière organique. Et moi, j'étais en lien ici avec les agriculteurs. J'étais vachement... Enfin voilà, mon compagnon est agriculteur. Et il y a beaucoup d'agriculture biologique ici. Et l'agriculture biologique, pour amender ses sols, elle a besoin de matière organique, en fait. On ne peut pas faire appel à la chimie. Donc s'il n'y a pas assez de matière organique, ça freine le développement de l'agriculture biologique. Et donc, à force de vivre entre les deux, et à un moment donné, on se dit, bon, OK, j'arrête, pour lancer un outil qui sert au territoire et qui permet de valoriser localement tous les biodéchets, les sortir des poubelles et faire en sorte que ça serve aux agriculteurs locaux et que ce soit un compost de bonne qualité. Plateforme de compostage.
C'est là que viendra Gaël déposer ses bacs.
Exactement, en fin de tournée.
Et là donc on est sur un terrain avec plein de bacs.
De 500 mètres carrés.
Et là
Des tas de compost. Donc là on vient tout simplement verser les bacs plein de purée.
Oui. Oula, regardez.
Alors une petite souris. Moi elles sont vraiment trop mignonnes.
Ça gêne pas ça?
Non, quand il y a des rats on fait de la dératisation, mais quand il y a des souris on les laisse.
Vous collectez auprès d'un EHPAD ou d'un hôpital, ça se fait comme ça? Vous allez voir le directeur de l'hôpital, la directrice, vous dites voilà, on va vous collecter. Comment vous avez eu le marché, si je puis dire?
Alors, pour les établissements publics, c'est des appels d'offres auxquels on a répondu en groupement avec deux acteurs locaux, petits comme nous, des petits acteurs locaux. On s'est mis en groupement pour 10 hôpitaux, c'est un gros appel d'offres face à des gros acteurs du déchet et qu'on a, par surprise, remporté. Il y avait Suez, il y avait Saria, il y avait Veolia.
Ah oui, donc vous, Colombol, là, Flore Bazin, avec votre petite association, vous avez réussi à avoir un marché que n'a pas eu Veolia.
Exactement. Ouais.
Qu'est-ce que ça dit, ça?
Ça dit que le groupement hospitalier avait très envie de travailler avec des locaux et de faire de la valorisation locale. Et du coup, décarboner, parce que qui dit local dit moins de kilomètres de camion. Et en plus, à Cré, ils ont la chance de pouvoir être collectés à vélo. Là, c'est top, quoi. C'est une relation de proximité. Il y a un lien qui se crée, ça motive à faire le tri, quoi.
Je suis en route maintenant vers la ferme Heureuse, sur la commune de Heure, un petit jeu de mots. Je monte sur un vallon pour rejoindre Sébastien Bost. Il est éleveur caprin avec sa femme, 4 enfants. Ils font notamment du fromage de chèvre bio. Et si je m'y rends, c'est pour parler de sa collaboration avec la FIBEL, un acronyme pour un nom germanique d'un organisme suisse qui s'intéresse à la recherche agrobiologique. La FIBEL est implantée dans la Biovallée. Elle est financée en partie notamment par la Biovallée. Et Lorraine Fitteau, chercheur, scientifique, y travaille. Elle nous attend également à la ferme Heureuse. Bonjour.
Bonjour.
Thibault, France Inter.
Sébastien.
Merci de l'accueil.
Bonjour Sébastien.
Salut.
Merci.
Sébastien Bost, vous êtes au GAEC de la ferme Heureuse.
GAEC que vous tenez avec votre épouse.
Agathe.
Agathe. Et avec nous, il y a Lorraine Fitteau du FIBEL.
C'est ça.
Là, devant nous passe un troupeau de chèvres.
Des 100 chèvres du cheptel chèvre-lait.
Où elles vont là?
Bon là, elles vont au parc. Je pense que les glands commencent à tomber, donc régulièrement... Elles vont faire une petite glandée. Donc elles mangent du gland.
Allez-y. Si je viens vous voir, c'est parce que vous expérimentez avec un laboratoire basé sur l'écosite de Biovallée.
Oui.
Un laboratoire qui essaie de faire en sorte que les chèvres donnent du lait sans qu'elles aient besoin d'avoir des chevreaux.
Oui, sans qu'elles aient besoin de faire une gestation. Parce qu'une chèvre, pour qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle ait un chevreau. Et une chèvre, normalement, ça fait un chevreau par an. Alors le projet du FIBEL, c'est d'avoir la période de reproduction normale, une fois par an. Et nous, à ce moment-là, on a isolé des chèvres qu'on n'a pas mis à la reproduction, mais étaient quand même dans le troupeau. Donc elles ont subi tous les aléas que les autres chèvres ont. Mais par contre, elles n'ont pas été saillies, pour ne pas avoir justement de chevreaux. Et quand ce sera le moment de la fin de gestation et le moment de la mise bas, du coup, c'est restimuler ces chèvres comme si elles avaient mis bas comme les autres.
Comment on les stimule?
Mais l'idée, c'est que je leur donne la même alimentation que les autres. Je leur fais croire en fait qu'elles ont fait un petit. Et je vais commencer à les traire. pendant 4-5 jours à la main, et puis après les brancher à la machine normalement comme les autres, et on espère avoir une montée de lait.
Afin d'avoir du lait sans la forcer à avoir un chevreau.
Voilà.
Donc alors, c'est pour son bien-être aussi.
Alors, nous, c'est juste que par éthique, on n'a pas besoin de ces chevreaux forcément. On ne sait pas les valoriser. Donc du coup, à quoi ça sert de faire des chevreaux pour peut-être gaspiller justement cette production? Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de valorisation. On est en bio, on attache beaucoup d'attention à ce que nos chefs soient bien. Donc les chevreaux qui en découlent, ils soient bien aussi. Donc si c'est pour... voilà, ça, pour moi, c'est un non-sens, quoi.
Je vais suivre votre regard.
Oui.
Là, vous regardez Lorraine Fito,
oui,
qui nous accompagne ici, là, sur la ferme Heureuse. Lorraine, vous êtes scientifique.
Tout à fait.
Chercheur.
Oui.
Au FIBL.
Exactement.
Juste en bas, là, on est sur une colline,
sur
c'est
la
juste
Bio-Vallée,
en bas.
Toujours au même endroit. Donc, on est vraiment au plus proche des éleveurs. Et nous, notre mission, c'est d'essayer de trouver des alternatives pour aider ces agriculteurs bio à valoriser leur lait au mieux et à ce que ça corresponde à leur éthique et à la nôtre.
Je trouve que si on parle de la Bio-Vallée, c'est qu'on a un territoire exceptionnel. Et moi, je trouve que ça vient, on ne le dit pas assez, mais ça vient surtout les gens qui habitent dans notre bassin. Parce que c'est pas que les paysans, c'est aussi parce que les gens ils consomment beaucoup au marché. Il y a une vraie responsabilité face à la nature, face à plein de choses. Les gens se posent plein de questions. Il y a un tissu associatif énorme chez nous. Et tout ça, ça fait la Bio-Vallée.
Il y a une émulation peut-être,
ouais, je
donc
pense.
Réflexion, d'avancer dans ce sens.
Ouais, je pense vraiment si la Drôme, ça a été le premier producteur bio, c'est parce que déjà il y a eu beaucoup de brassage dans les années où il y a eu de l'exode rural. Beaucoup de Parisiens, on va dire d'étrangers à notre vallée sont venus. Du coup, ils ont apporté de nouvelles idées, ils se sont implantés, ils ont quand même repris des fermes. Ils ont montré qu'ils pouvaient y arriver eux aussi. Et tout ça, ça a enrichi le truc.
Ça, c'est un gros avantage, c'est qu'elle suit bien. Allez.
Est-ce que les chèvres du 21e siècle produiront du lait sans faire de chevreaux? Les défenseurs de cette Bio-Vallée imaginent un monde moins productif et plus éco-responsable, un monde où ce qui prime n'est pas de faire recette avec des tiroirs-caisses.
J'ai des chèvres qui mouchent encore.
Ah, tu veux un strong respirateur?
Ben, je sais pas, enfin, pour
ah oui.
Terre pionnière de l'agriculture biologique, on s'efforce sur ce territoire de déguster bio. Au moins 30% des assiettes sont bio dans les cantines des collèges de la vallée. La Drôme est sur ce point un élève modèle. On privilégie aussi les circuits courts, plus écologiques. C'est sur un marché à Cré que se poursuit ce reportage de Thibaut Cavaillès.
Interception.
Les deux choses, hein. Les œufs et...
Oui, oui.
D'accord.
Sur France Inter.
4,49, s'il te plaît.
Rassemblement pour la paix ce soir à 17h à la statue de l'insurgé. Il faut une solution à deux États. Les Palestiniens comme les Israéliens ont droit de vivre en sécurité et en paix côte à côte.
Nous sommes mardi et le mardi c'est jour de marché à Cré. Le mardi et le samedi, marché très tourné autour du bio avec des producteurs locaux quasi exclusivement. Des fruits, des légumes, de la bière locale, des fromages de chèvre d'ici aussi, bio bien évidemment. Et là donc, je retrouve Damien Ginoux, c'est un jeune maraîcher qui s'est installé il y a tout juste 2 ans dans la ferme familiale, juste à côté de Cré, à Divajou.
C'est 6 ou 12? Il a ce qu'il faut, monsieur, il est bien équipé. Tout va bien.
Pardon.
Vous êtes Damien?
Bonjour.
Bonjour, je suis Thibaut.
Enchanté.
Ça va?
Oui, ça va.
Ouais. Damien Ginoux.
C'est ça.
La ferme des vieux mûriers.
Exactement.
Là, vous êtes avec des pommes de terre de la variété Nicolas.
C'est ça, c'est des pommes de terre chère ferme. C'est bien pour la cuisson, ça tient bien en fait.
Des potimarrons, des patates douces, de l'ail.
De l'oignon.
Alors, Damien Ginoux, je vous donnerai une trentaine d'années.
C'est ça, 31.
Vous êtes nouveau dans le métier.
Oui, ça fait 2 ans que je me suis installé. J'ai repris la ferme en fait de mon papa, qui lui-même l'avait pris de mon grand-père. Enfin, c'est une histoire de famille.
Avec un profil qui n'est pas à la base maraîcher.
Oui, alors j'avais commencé une carrière dans le marketing en région parisienne, dans l'agroalimentaire. Donc,
chez qui on peut en parler?
Chez Nestlé, on peut en parler, il n'y a pas de problème.
Ah oui, on est très loin de Nestlé là, avec les cagettes, avec les produits de la ferme, c'est pas du tout la multinationale.
Oui, ouais, ça change effectivement. Après, voilà, j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit, alors pas forcément dans les légumes, mon papa faisait des grandes cultures. Donc du coup, j'ai récupéré le package, j'ai toujours cette partie grande culture, mais ce qui m'occupe le plus, c'est la partie légumes. Ouais. Pour moi, ça fait sens d'être en bio, et tant pis, oui, il y a plus de parasites, etc. Mais en même temps, si on fait, là typiquement je suis sur du maraîchage biodiversifié, comme on peut l'appeler, et ben tant pis, j'ai pris une maladie sur telle culture, et finalement l'autre va compenser. C'est un peu le jeu quoi, je me dis, bah je sais pas, je rate mes poireaux, mais à côté j'ai super bien réussi les tomates, ou je rate les tomates, c'est un peu embêtant, mais je rate telle culture, mais l'autre rattrape.
Damien, j'ai pu voir sur votre page Facebook que vous avez eu des petits soucis avec des courges et la grêle.
Oui.
Mais il y a quelqu'un qui vous a proposé une aide sur Facebook.
Oui. Oui, c'est le restaurant La Salle à Manger avec qui je travaille depuis le début en fait, le commencement. Et leur proposition c'était, si tu as des légumes abîmés, ne les jette pas, ne les gaspille pas, nous on saura quoi en faire. Parce qu'en fin de compte on les transforme et ça change rien au plat final.
La Salle à Manger c'est un restaurant à Cré, ça dit quoi de cette région aussi?
Ça dit qu'il y a une entraide et ça dit ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le dynamisme local de vouloir... travailler avec les producteurs locaux, aller vers plus du bio, des circuits courts, etc. Et même la restauration va dans ce sens-là aussi. Alors après, c'est clair que c'est super aidant parce que, comme on se dit, quand il y a un souci, on peut arriver quand même à valoriser nos produits.
Vous donnez vos prix, là? Donc là, je vois des tomates vertes, mais on sent que c'est la fin de saison. Hein.
Ouais. Là, c'est de la tomate verte, c'est plus pour faire de la confiture ou du chutney, par exemple. Bon, là, c'est 1 € le kilo, c'est vraiment pour pas qu'elle finisse sur le tas de compost. Après, sur la tomate, je suis à 4,20 €. C'est la fin de saison, mais voilà, j'ai pas augmenté mes prix, pas baissé. Les haricots, je suis à 9 € le kilo. Oui, quand même. Après, regardez en grande distribution, c'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez du haricot bio ramassé, cueilli à la main, en boîte, qui n'ont du coup quasiment pas de goût, ça n'a rien à voir, vous êtes sensiblement sur ces tarifs-là. Donc, c'est pas déconnant, simplement. C'est vrai qu'en grande distribution, vous allez avoir le bocal qui fait peut-être 300 grammes. À 300 grammes, à 9 € le kilo, vous allez payer 3 €. Vous vous dites, bon, ça va, j'ai payé mon bocal à 3 €, je me suis pas ruiné. Là, les gens, ils voient le prix, ils se disent, oh là là, 9 € le kilo, c'est ahurissant. Ils me le disent, je leur dis, allez-y, prenez un kilo, vous allez voir ce que ça fait.
La ferme des Vieux Mûriers, c'est combien de salariés?
1,5. Non, même pas. Enfin, moi, je suis pas salarié, donc un demi à l'année.
Mais vous vous payez?
Ouais, se payer, c'est un bien grand mot, mais ça viendra, je pense, j'espère.
Vous êtes arrivé peut-être avec des économies aussi de votre ancienne vie?
Oui, bah oui, forcément, on arrive avec les économies d'un salaire parisien et on vient dans une région où forcément tout coûte un petit peu moins cher. Les loyers, l'alimentation, enfin absolument tout, non, parce que les coûts de l'électricité ou quoi, ça non, mais par contre, le gros des factures, oui, est moins élevé.
C'est pas cher, monsieur?
Pardon?
Bonjour, c'est pas cher, vous disiez?
Non, c'est, à cette saison, c'est trop cher, 4,20.
Les tomates?
Oui, des petites comme ça, oui. Ah. Mais bon.
C'est trop cher, Damien?
Oui, c'est parce qu'il a envie de vous taquiner, non?
Non, 4,20 quand même, réfléchis. À cette saison, normalement, t'en vends pas. Alors, tout ce que tu as actuellement, c'est du bénéfice.
Bonjour. Excusez-moi, est-ce que c'est ici que je peux trouver Madame Claude Boudel? En face. Là, je suis avec Claude Boudel de l'association Biovallée, vice-présidente. On est sur le site, l'écosite, c'est là que sont réunies l'intercommunalité de
communes. La communauté de communes du Val-de-Drôme.
La communauté de communes du Val-de-Drôme, Biovallée. On est sur la commune d'Eure, à 2 pas de Cré.
Oui.
Expliquez-moi, que veut dire Biovallée?
Alors, Biovallée, tout simplement, on aurait pu appeler cette vallée l'éco-vallée. Mais on l'appelait Biovallée parce que cela vient du grec bios, le vivant, la vallée du vivant. On est une vallée du vivant parce qu'on a, je pense, depuis toujours, su accueillir les gens. Après la révocation de l'édit de Nantes, on a accueilli les protestants, on a accueilli les espagnols. Pendant la guerre, il y avait les résistants qui étaient là. Et puis maintenant, on accueille avec un immense plaisir ce que l'on appelle les néos, c'est-à-dire des jeunes qui ont entre 35 et 40 ans, qui viennent s'installer ici parce qu'on y vit bien. Parce qu'il y a une certaine philosophie, une certaine mentalité, beaucoup de bienveillance. Donc ils viennent s'installer là, ils acceptent de perdre une grande partie de leur salaire, parce que ce qui est important pour eux, c'est de bien vivre.
Il est juste là, hein?
Oui.
Il est derrière?
Il est là.
TGV.
TGV.
Ça vous a aidé, ça?
Ah bah oui.
On a une trentaine de kilomètres de la gare Valence-TGV.
Bien sûr que ça aide. Ça aide pour le tourisme dans la vallée, même au niveau des entreprises, hein, pour les échanges avec les chefs d'entreprise, les gens, les commerciaux. Oui, c'est important.
La vallée a pris de la valeur. Ces néo-ruraux qui arrivent avec peut-être un peu plus de...
Ils ont des moyens qu'il n'y a pas ici. Et je pense que c'est un des soucis qu'il ne va pas falloir négliger. C'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une cassure entre les gens qui habitent ici, qui n'ont pas forcément les moyens de ceux qui arrivent, qu'il y ait une espèce de jalousie et de rivalité, et que ça rompe peut-être ce bien-être qu'il y a dans la Biovallée. Les habitations, les prix ont augmenté. Voilà.
Il y en a peu.
Et on n'arrive pas à loger, si vous voulez, tous ces jeunes qui veulent venir et dont on a besoin, qui ont quelquefois des salaires plus modestes. Donc on a vraiment un très très gros problème d'habitat. Et je pense que vraiment, vraiment, il faut s'y pencher. Les intercommunalités commencent à se pencher dessus. Mais je pense qu'il y a urgence, vraiment une grosse urgence. Pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, une espèce de ségrégation sociale, quoi. Si vous voulez, les gens qui sont là, c'est leur terre, c'est là où ils sont nés, c'est là où ils vivent. Et puis il y a tous ces néo-ruraux qui arrivent, qui ont de gros moyens, ça fausse la donne. Pour moi, ça fausse la donne.
Moi, je cherche Thierry Véclin, c'est là?
Bonjour.
Bonjour.
Thibault, France Inter.
Thierry Véclin.
Vous êtes vice-président de la MJC d'Oust-sur-Cie.
Oust-sur-Cie, MJC Centre Social.
On s'assoit?
Oui.
Là, on est sur la commune de Mirabel et Blacon. On est à deux pas d'Oust-sur-Cie.
Oui.
Pendant des années, il y a un supermarché Lidl qui a voulu s'installer.
Ah.
Il n'a pas réussi, mais ça a révélé une sorte de division dans la vallée.
Alors, je ne dirais pas division, je ne dirais pas jusque-là. C'est que ça a révélé des envies, des situations, des problématiques, des questions différentes au sein de cette population. Mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de territoires, avec des gens qui étaient plutôt pour l'installation de ce supermarché, parce qu'ils proposent des produits à bas prix, etc. Et puis de l'autre, des gens qui voyaient aussi des gros supermarchés s'installer, et on sait comme souvent au détriment des petits commerces locaux. Et donc finalement, c'était des enjeux qui tous les deux portaient des arguments valables, et qu'à un moment, il fallait faire un choix.
Qu'est-ce que ça a révélé? Que la vallée a changé de physionomie?
De fait, la vallée a énormément changé de physionomie. En fait, c'est un territoire qui gagne énormément de population, alors ce qui n'est pas simple non plus à gérer, avec d'un côté une arrivée de personnes alors qui, en majorité, parce que je ne veux pas globaliser, sont des personnes soit en situation plutôt aisée, ou des personnes retraitées qui reviennent dans ce territoire. Et de l'autre, on a aussi une population beaucoup moins aisée, voire pauvre. Quand on compare tous les chiffres, que ce soit sur les revenus moyens, le salaire horaire, les taux de chômage, les taux de pauvreté, etc., on est bien au-dessus des moyennes départementales et nationales.
Ah, là vous sortez un petit dossier, je vois des graphiques là.
Ouais.
Évolution de la population du territoire en Biovallée.
Ouais.
68, 90, ouais. 99, 2009, 2014, 2020. Donc là, je vois Biovallée territoire attractif, plus 19 000 habitants en 50 ans.
Plus 5 000 en 10 ans.
Ouais. Et un flux migratoire positif et l'arrivée de ménages aisés.
Et ou retraités. Si je vous montre d'autres chiffres, là par exemple, on regarde, c'est les taux de pauvreté.
Pays de Saillant, donc 15,5.
Ouais. Alors qu'on
le
est
Diwa,
à
22,2 le Diwa.
Voilà, et à l'échelle nationale, on est à 14,4.
Donc on est bien plus élevé.
C'est ça. Donc c'est une réalité. C'est un territoire hyper dynamique. Hein. Il y a plein d'emplois qui se créent, d'entreprises qui se créent. Mais on regarde que, par exemple, sur les catégories d'emplois, les majoritaires, c'est des emplois d'employés ou d'ouvriers. C'est pas les cadres. Et voilà, il y en a. Mais ils ne sont pas majoritaires.
Quand il y a eu cette question du Lidl qui pourrait s'installer, on a entendu des gens dire on veut ce Lidl et on en a la marre des mangeurs de graines.
Oui, et puis je les comprends. Certains peuvent avoir l'impression que, comme on les appelle les mangeurs de graines, arrivent avec leur vision des choses et peuvent parfois même être donneurs de leçons, alors qu'ils peuvent être, pour certains, avec plus de moyens financiers. Après, une bonne partie des gens qui, on va dire, portent une vision du territoire avec du bio, inscrit dans la transition écologique, c'est loin d'être que des gens qui ont des moyens. On a les deux.
Le Lidl, à l'heure actuelle, travaille énormément avec les agriculteurs français et locaux. Donc c'est quand même positif pour nous, par rapport à notre métier, de pouvoir justement aller travailler directement avec eux et nous amener un plus sur la revalorisation de nos produits.
Si Lidl s'installe, on sait comment ça se passe. Il y a des galeries commerçantes qui s'installent à côté pour profiter des allées-venues des clients. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont aller s'installer là-bas. Ils fermeront leur magasin dans le centre-ville et iront s'installer là-bas. Et le centre-ville va à nouveau mourir.
Je suis maintenant sur le bord de la Drôme, sous un pont, avec Jean Serré. Jean Serré, c'est le maire de la commune d'Eure depuis 1989 et président de l'intercommunalité Val-de-Drôme depuis 1993. Une interco qui regroupe 29 communes et s'appelle désormais Val-de-Drôme en Biovallée.
Donc là, vous êtes sur un seuil qui protège les fondations de ce pont, qui est le pont du Batelier, situé entre Mirabel et Blacon et Piégault-Laclastre. Vous avez en face deux passes, une passe à canoë et vous avez une passe à poissons qui permet la remontaison détruite des approns, des anguilles le long de la rivière Drôme.
Elle est limpide, hein?
Bah, l'eau est très pure et puis là, elle a une très très belle couleur qui passe du miel dont on voit lié aux mousses qui sont sur les graviers à la couleur bleue qu'on imagine.
Ça n'a pas toujours été comme ça.
Non, ça n'a pas été toujours comme ça. J'étais un papa qui a interdit à ses enfants de se baigner dans la rivière Drôme parce qu'elle était un égout, puisque vous avez une formule qui dit la chose suivante. Quand vous aviez une machine à laver, vous ne savez pas quoi faire, vous disiez « allez à Drôme ».
Allez à Drôme.
Allez à Drôme. C'est-à-dire qu'on y mettait les carcasses de voitures, on y mettait des pneus, on y mettait des ferrailles, etc. Et les gamins allaient à la chasse aux rats.
À quelle époque tout ça?
C'était dans les années 70, 80, 90.
Vous, vos enfants, non, pas de
bain. Ah, mais les enfants, c'était interdit. Mais bon, depuis, je m'y baigne avec mes petits-enfants. Regardez, vous avez quelqu'un qui va aller se baigner, là. Qui prennent le bain de soleil entre midi et deux.
Jean Serré, est-ce qu'il n'y a pas, avec cette marque Biovallée, il n'y a pas eu une arrivée de gens un peu plus aisés qui ont fait que cette vallée est devenue un peu difficile à vivre pour une certaine population? Vous êtes maire vous-même, maire d'une commune de Eure, combien d'habitants?
1500 habitants.
1500.
Nous essayons, dans le territoire du Val-de-Drôme, en ayant créé un fonds d'acquisition de terrain, d'imaginer, à travers des baux particuliers, la possibilité d'offrir des logements à loyer modéré, à de jeunes arrivants ou à des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre dans des grandes maisons ou qui ne peuvent pas, pour les jeunes couples, accéder à la propriété du bâti existant. Le bâti existant, c'est beaucoup de fermes. Ce sont des objets immobiliers qui sont très recherchés. Le marché de l'immobilier n'est pas un marché régulé. Le bien vaut ce que l'acheteur peut mettre. Il ne vaut pas sa valeur, en fait. Donc, il faut absolument que l'on se mobilise pour créer, avec les bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, des architectes, des programmes immobiliers qui répondent aux besoins des citoyens présents sur notre territoire, des citoyens qui veulent venir sur notre territoire, qui soient adaptés à leurs capacités financières.
C'est dans les années 70 que le projet de Biovallée a germé. À l'origine, ceux qui imaginent cette utopie ne sont qu'une poignée. Idéalistes, ils arrivent de Suisse, d'Allemagne ou des Pays-Bas. Et ils se retrouvent sur la même longueur d'onde que les néo-ruraux qui reviennent, eux, sur les pas de leurs aïeux. Les pionniers de la Biovallée ont ouvert les portes de leur maison et de leur herboristerie. Ils racontent leur belle aventure à Thibaut Cavaillès.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Maintenant, on rentre par la partie herboristerie, c'est-à-dire
le stock de plantes qui sont après travaillées pour faire les extraits, pour distiller aussi, faire les huiles essentielles, voilà.
Tous ces sacs là, ces énormes sacs, ce sont des herbes?
C'est que des aromatiques et des médicinales, ouais, que des herbes.
Vous permettez que je lise les étiquettes?
Ah bah oui.
Menthe poivrée, partie aérienne bio.
Voilà, par exemple.
Et la provenance?
À destination de cosmétiques. Alors la provenance n'est pas marquée sur ce conteneur là. En général, ça doit peut-être du Maine-et-Loire.
Ah, c'est pas d'ici?
Alors, pas tout. Il y a peu de choses qui viennent d'ici, en réalité, vraiment de la petite vallée de la Drôme. Parce que, d'abord, il n'y a pas des quantités de surface agricole énormes. Et puis, parce que tout ne pousse pas dans notre région. Nous, ce qui vient de la région, c'est beaucoup du lavandin, de la lavande, de la mélisse, de l'angélique. Puis après, des semences de carottes, des semences de persil. Là, on arrive dans la distillerie, dans la partie distillation et extraction.
Alors, de la musique, un employé avec un casque,
ouais.
Des cuves.
Des cuves d'extraction que vous avez sur la gauche, et puis là, des cuves à distiller, des alambics.
Attention.
Alors là, on est en train de sortir un gâteau de distillation, c'est-à-dire c'est des plantes qui viennent d'être distillées et qu'on va mettre pour faire du compost. Voilà.
Et si je viens vous voir, Dominique Ardouvin, entreprise Herbarum, fondateur, mais maintenant vous avez passé la main. Voilà. Si je viens vous voir, c'est parce que vous êtes, est-ce qu'on peut dire, un des pionniers de la Biovallée?
Alors, effectivement, je fais partie des quelques personnes qui ont eu la folie dans les années 80 de se lancer dans cette aventure des plantes. Alors, on est dans une vallée où il y a une longue tradition de production de lavande et de lavandin, mais qui était tombée vraiment très bas. Les gens s'étant tournés plutôt vers la Clairette de Die à l'époque.
Le vin pétillant.
Le vin pétillant connu, Clairette de Die, voilà. Moi, je gérais une exploitation agricole. Et la situation économique était catastrophique à cette époque. En fait, on s'est retrouvés 7 agriculteurs de la vallée. Et on s'est dit, allez, chiche, on se lance dans les plantes. Donc, on s'est mis à cultiver des plantes. Et assez vite, on a eu, sur l'exploitation dont j'avais la gestion, on est arrivé à 17 hectares de plantes.
Aujourd'hui, les chiffres sont bien plus importants. Il y a une quinzaine de sociétés comme Herbarum qui font des herbes aromatiques.
Sans compter les agriculteurs qui font des productions, évidemment. Rien qu'en termes de personnel, l'ensemble des entreprises de la vallée, il y a 3 ans, 4 ans, ça représentait quasiment 500 personnes qui travaillaient dans le secteur. Quand on a démarré cette aventure, il n'y avait personne. On était les seuls. Il y a un ami qui nous a prêté un camion pour transporter nos plantouilles, comme je dis. Et quand on passait dans cette vallée, on se disait souvent avec les amis que les gens devaient nous regarder avec un drôle d'air en se disant qu'ils sont un peu fadés avec leurs plantes. Puis aujourd'hui, ben voilà, c'est devenu une activité quand même très importante dans la vallée. Moi, j'ai connu, j'allais dire, 68-75. Cette période-là, ben, c'est pareil, arrivée de Paris, arrivée de, même, du, j'allais dire, de toute l'Europe, des gens pour s'installer avec des chèvres, pour, voilà. Et personne trouvait ça inquiétant. Tout le monde trouvait ça plutôt sympathique. Des villages sont repartis même dans le développement et tout ça, par ces gens-là, qui ont apporté leur contribution au développement humain et économique. Et les agriculteurs, les anciens qui arrêtaient leur exploitation, se disaient toujours, ben écoute, c'est bien qu'ils viennent parce qu'au moins l'hôpital restera ouvert, le lycée restera ouvert, pour nos enfants et petits-enfants, ce sera bien. Et personne cherchait à jalouser le voisin en se disant, j'aimerais bien récupérer ces terres. Ce qui fait qu'on est quand même dans un univers de petites entreprises agricoles, on n'est pas avec des fermes énormes, quoi.
Dominique Ardouvin, on vous retrouve là dans les bureaux d'Herbarum. Vous avez donc vu naître, grandir cette vallée qui est devenue Biovallée. Quelle est la suite pour cette vallée de la Drôme? Quel est l'avenir?
Ah, c'est une bonne question qui est difficile à donner réponse parce que de quoi sera fait demain, on ne sait pas. On a quand même une épée de Damoclès sur la tête qui est tous ces problèmes climatiques. Est-ce que notre vallée va pouvoir supporter encore longtemps les cultures qui sont aujourd'hui en place? Est-ce qu'on aura suffisamment d'eau dans les années qui viennent? Suffisamment d'eau pour les cultures, mais surtout suffisamment d'eau pour les habitants. C'est vrai que notre Biovallée est quelque chose d'attractif aujourd'hui. On a de plus en plus de gens qui souhaiteraient venir s'installer là. Mais comment fait-on ? Sachant que bon nombre de villages ont des problèmes d'approvisionnement en eau. Bien sûr, on a le massif du Vercors qui, pour nous, est quand même un beau château d'eau, mais avec les risques que ça comporte, parce que le Vercors, s'il ne pleut pas, eh bien, il n'y aura pas plus d'eau dans le Vercors que ce qu'il y en a ailleurs. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Il se trouve que je fais partie d'un conseil municipal dans mon village et que je suis très intéressé et je suis de très près toutes ces problématiques d'eau, parce que c'est demain ce qui va nous guider, même dans le développement du nombre de gens qui viendront vivre dans cette région. C'est un vrai questionnement.
En remontant le cours de la Drôme, on rejoint la région de Die, le Diois. Et là, je me rends dans une petite vallée, une autre vallée, la vallée du Quin, ou les gorges du Quin même, c'est très étroit, en direction de Vachères en Quin. Retrouver celui que l'on considère comme l'un des pionniers de cette biovallée, l'un de ces néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70 et qui ont permis de développer la culture des plantes aromatiques. Il s'appelle Sjoerd Wartena. Il est néerlandais d'origine. Il était d'abord éleveur caprin, puis ensuite s'est lancé avec d'autres dans les herbes aromatiques avant de cofonder l'association Terre de Liens qui rachète des terres pour éviter qu'elles tombent aux mains d'agriculteurs conventionnels. Je suis à l'heure.
Très bien.
Bonjour.
Bonjour. Entrez.
C'est beau chez vous.
Oui. Oui, mais ça prend toute une vie. Hein.
Vous êtes là depuis toujours ?
50 ans.
Ah oui. Vous pouvez vous présenter ?
Moi, je suis Sjoerd Wartena. Je suis paysan en retraite.
Sjoerd Wartena.
Oui.
Pour arriver chez vous, Sjoerd, j'ai quitté un peu la vallée de la Drôme. Hein. Je suis monté dans c'est les gorges du Quin ou la vallée du Quin ?
Ici, c'est les gorges des Quins, oui.
Ouais.
Ça s'appelle la Tourette, ici, ce coin. Et c'est une vraie gorge, là. Hein. Et après, on a encore toute une vallée agricole, ici.
C'est le coin dans lequel vous êtes arrivé il y a 50 ans ?
Oui.
Vous vous souvenez de la date de votre arrivée dans
le
coin ?
Oui, 73. Mai 73.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire là ?
C'était une sorte de caprice. On était touché par le mouvement 68 ans un peu, le retour à la nature. Et bon, on a dit, écoute, on va essayer. On avait des copains qui avaient pris le pas déjà, qui sont venus ici. Et on est allé visiter, et en certains mois, ils ont nous demandé de faire ensemble une ferme de chèvres. Donc on dit, allez, hop, on va le faire, on va bien. Qu'est-ce que ça va faire ?
Avec votre épouse, hein ?
Oui. Et un enfant de juste une année.
Comment vous voyez la suite pour cette biovallée qui s'est énormément développée depuis votre arrivée ?
La suite sera claire. Il faut installer beaucoup plus de gens encore ici. Et par exemple, un très joli exemple actuellement, c'est l'entreprise de maraîchage à côté de Die. Et l'existence de supermarché Carline, par exemple. Carline, c'est un supermarché de coopératif de familles, 200 familles qui ont mis des sous. Et c'est une super installation. Tout ça, ce sont des signaux qu'on a une certaine énergie ici qu'on peut continuer de changer les choses. Parce que moi, comme je dis, je regarde les choses un peu en grand, mais il y a en France la place pour, laissons-nous dire, un demi-million de petites entreprises. Mais pour ça, il faut changer totalement. Il faut que chaque école ait un lien avec une ferme. Là, tu vas habituer les enfants à le travail agricole et éventuellement trouver un petit pourcentage de tous les enfants qui veulent faire de l'agriculture. Mais il faut les mettre en contact. Le grand travail, c'est là. La nature, le travail avec la nature, le travail avec la production de notre nourriture, c'est un des grands moyens qu'on a pour changer la mentalité qu'on a besoin pour lutter contre le réchauffement climatique.
Vous me dites ça alors que, regardez, on est chez vous, on marche sur des feuilles mortes et on voit des roses complètement ouvertes, magnifiques. La nature, elle souffre en ce moment. Est-ce que c'est pas difficile de convaincre des jeunes de se lancer dans l'agriculture alors que la météo change de façon...
Écoute, non. Il faut garder l'espoir quand même. Et regarder autour de nous. Ici, vous êtes dans un coin vraiment pas le plus riche de France, hein, coin, point de vue terre, l'eau, etc. Mais il y en a des coins énormément partout où au lieu de faire 300 hectares de maïs, on peut faire 10 fermes différentes qui travaillent avec la permaculture, qui ont besoin moins de l'eau, pas de l'irrigation, pas de bassines. C'est possible tout ça. Je crois que le travail, et j'ai l'expérience pendant 50 années quand même, ça a nous changé. Notre caprice au début est devenu une métamorphose. On pense différemment grâce au travail avec la nature.
Bio-Vallée, le vivant avant tout, c'était un reportage de Thibaut Cavaillès. Réalisation Charles de Cilia, assisté de Pierre Chabert. Mixage Romain Lenoir. Cette émission est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.